J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi. Vous aurez aujourd'hui dans les tympans de la poésie en prose. De notre 35e invitée émane une âme poétique, légère et discrète. Certainement parce qu'elle l'est, Johanna Diaz. Poétesse du quotidien, autrice, chanteuse, illustratrice, peintre, créatrice. Autant d'univers que nous allons explorer ensemble. Nous filons tout droit au sud pour cet épisode qui nous autorise une balade entre l'Espagne et les contrées lusiennes. Avant de retrouver notre rituel sonore, je voulais tout de même vous signaler que cet entretien a été réalisé à distance, ce qui explique peut-être que le tu et le vous se tournent autour. Bonjour Johanna Diaz, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que nous venons d'entendre et nous dire ce que cela raconte de vous ?
Alors bonjour, oui, donc là, donc le crépitement du feu pour moi, c'est ça me ramène à un foyer chaleureux et c'est vrai que je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça spectaculaire depuis toute petite, juste de rester à écouter, à regarder les braises et le feu vivre, quoi.
Ce côté chaleureux et spectaculaire, j'ai comme l'impression qu'on se dira d'ici la fin de l'épisode qu'il s'agit finalement d'un son à votre image. Et d'après les informations que vous avez pu me transmettre, j'ai aussi la sensation que toutes les caractéristiques que vous attribuez à cet élément, on peut les relier aussi à votre famille, à votre environnement familial. Est-ce que ça se tient comme analyse ou pas du tout?
Oui, moi j'ai beaucoup évolué dans cette bulle protectrice là et chaleureuse, c'est vrai, ouais, du foyer quoi, avec une famille très présente et très aimante aussi, donc ouais.
Cette famille, j'aimerais qu'on s'y intéresse un petit peu parce que c'est le premier élément que vous avez abordé pour préparer cette émission. Vous êtes franco-espagnol ou basco-espagnol, comment vous dites?
Oui, c'est les trois. On pourrait dire franco-basco-espagnol, c'est ça. Ouais.
Votre mère est lusienne, votre père est d'Extremadour, c'est une province du sud-ouest de l'Espagne. Est-ce que j'ai prononcé correctement?
Oui, okay. Extremadour, ouais.
Magnifique. L'Espagne, il la quitte avec ses parents et ses trois sœurs. Après Franco, m'avez-vous écrit, ouais. Est-ce que cette partie de l'histoire espagnole fait partie de votre vie ou est-ce que ça a été complètement occulté à l'arrivée en France?
Alors, non, ça fait vraiment partie de notre vie. Enfin, moi, c'est une histoire dont on m'a beaucoup parlé, mes grands-parents, mon père... avec mes tantes moins, mais j'ai eu on était très proches avec plutôt côté paternel du coup, donc j'ai suivi aussi cette arrivée ici en France par mes grands-parents et mon père aussi enfant, et ça m'a touchée beaucoup d'avoir ces récits là de leur histoire en fait.
Et ces récits, ils disaient quoi exactement, du coup? Est-ce qu'on peut resituer un petit peu?
Bah, c'était simplement pas évident de quitter sa terre natale. Et bon, c'est vrai que mes grands-parents, ils ont quitté une terre, mais leurs amis, leur famille. Et du coup, d'arriver dans un pays, même si c'était s'il y a cette frontière, si on est tout près de l'Espagne, il fallait quand même s'adapter. Il y avait la langue, la barrière de la langue, et même au niveau culturel, quoi. C'était un nouveau départ et pas forcément choisi, puisqu'il fallait trouver des solutions pour avancer, quoi.
Bref point historique. Francisco Franco, né en 1892, grandit à Ferrol, en Espagne, entouré de militaires, essentiellement de la marine. Il rejoindra lui-même l'armée en 1912 et participera à la guerre du Rif. Il participe également au coup d'état militaire de 1936 qui prend le pouvoir au Front populaire en place, menant à une guerre civile des plus sanglantes. Il restera au pouvoir jusqu'en 1969 à la tête d'une dictature militaire et autoritaire, corporatiste mais sans doctrine claire, si ce n'est un ordre moral et catholique marqué par l'hostilité au communisme et aux forces judéo-maçonniques soutenues par l'Église catholique. Merci Wikipédia. Votre mère, Johanna, est lusienne, donc ça veut dire qu'elle est de Saint-Jean-de-Luz. Moi, je l'ai découvert pour cet épisode, je ne savais pas qu'on disait lusien ou lusienne. Oui. Vous m'avez précisé qu'elle a grandi entourée de figures féminines avec sa grand-mère, sa mère et ses trois sœurs, pas de père. Est-ce que vous avez l'impression que ça a eu un impact sur vous ou sur votre éducation?
Oui, parce que je pense qu'on est quand même en éponge un peu tout ce qu'on traversait à les personnes qui nous accompagnent depuis tout petit. Et on, voilà, oui, je pense ça fait partie de mon histoire aussi. Il y a eu peut-être des peurs aussi transmises ou peut-être la peur de l'abandon. C'est vrai qu'elle a eu un papa qui est parti elles étaient toutes petites. Et voilà, des petites choses comme ça qui font partie après de nous, quoi. Et après aussi la force, quoi, de ma grand-mère et de mes tantes aussi de tenir et de continuer. C'était une période où déjà peut-être le divorce était pas non plus super bien vécu, donc bon, par l'entourage. Et c'est vrai que ma grand-mère, c'est une femme forte, quoi, qui a toujours été très active et très et solide, voilà. Donc c'est beau, quoi. Je trouve que c'est une belle transmission.
Donc entre ce départ d'Espagne et ces femmes fortes, votre socle familial est finalement assez important. Ça a plutôt défini la femme que vous êtes aujourd'hui.
Oui, ouais. Je pense à eux, en fait. Aujourd'hui, même quand j'ai des moments un peu, parfois, un peu d'hésitation ou de doute ou quoi, je pense à ma famille.
Alors, votre famille, il y a tout ce côté historique qu'on vient d'évoquer qui est prégnant. Et puis, il y a aussi l'activité principale de votre famille, du moins pour le cercle proche, à savoir l'artisanat, qui occupe depuis toujours et encore maintenant une place importante dans votre vie.
Oui, c'est vrai. Juste la création artisanale, et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai besoin, j'ai toujours eu sous les yeux et dont j'ai besoin. Ça me fait du bien juste d'être dans l'action et de travailler avec mes mains, juste, ouais.
Vous m'avez dit, Anna, que vous avez quitté le système scolaire assez rapidement pour être justement dans la création. Est-ce que malgré cet univers, malgré l'univers familial dans lequel vous évoluiez, oh, c'est bizarre. est-ce que ça les a surpris ou surprises que vous sortiez tôt justement du système scolaire pour vous lancer dans cette passion et en vivre?
Oui, il y a eu quand même, mais je pense, enfin, ça n'a pas été trop discuté. Ça paraissait comme évident, mais par contre, il y a eu comme une petite remise en question. Ça n'a pas été plus loin après une fois. Enfin, je pense que quand parfois c'est là, on le sent, c'est comme ça. Moi, bon, il fallait que je puisse me projeter vers la suite, et il y avait que sur ce chemin-là que je me voyais avancer, quoi. Donc c'était peut-être la seule chose dont j'étais sûre à ce moment-là, c'était ça, quoi.
Vous aviez quel âge à peu près?
Ah, j'avais 18 ans. Ouais, je terminais le lycée, quoi, mes années de lycée.
Vous saviez que vous pourriez vivre de ça?
Non, je du tout. Non. Alors moi, j'étais beaucoup plus légère. Je voulais juste trouver une place, quoi, me dire tiens, je me sens bien là-dedans, parce que c'est vrai que j'avais aussi, à cet âge-là en plus, c'était pas une période très évidente. Moi, j'avais besoin de trouver un peu ma place et de me dire c'est ça, c'est un C'est une activité dans laquelle je me sens bien et j'ai envie d'avancer là-dedans. Après, ça s'est fait petit à petit et trouver des petites astuces. Une fois, quand on est déterminé, on trouve toujours des solutions, je crois, pour rebondir, quoi. Donc, j'ai toujours trouvé des petites solutions, mais je me suis jamais dit, tiens, je vais gagner ma vie, ou je vais bien gagner ma vie là-dedans. Bon, ça, je... Voilà.
Parce que quand même, vous avez loué un atelier.
Ouais.
Enfin, pour louer un atelier, il faut un petit revenu quand même, minimum.
Alors au début, je travaillais à la maison, je travaillais chez moi, j'avais aménagé une petite pièce dans mon appartement, et ensuite, après j'étais en couple à ce moment-là déjà, donc j'étais pas toute seule, quoi. Et ensuite, je faisais des petits marchés artisanaux dans lesquels je vendais mes petites créations, et j'arrivais comme ça à me faire au moins à payer la location d'atelier, quoi. Voilà, au début c'était des petites rentrées d'argent, mais ça a vite débouché sur des rencontres associatives ou dans lesquelles j'ai pu aussi donner des cours pour enfants. C'est comme ça que j'ai démarré. Voilà, donc ça s'est vite mis en place après, une activité un peu plus stable, quoi.
Alors on va
création.
Pardon. On va revenir à cette activité associative dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à votre activité artisanale à vous, parce que vous m'avez écrit que vous viviez donc avec votre mère et votre grand-mère qui étaient couturières, votre grand-père ébéniste, votre père tapissier décorateur et chanteur-auteur tant qu'à faire. Vous, dans tout ça, est-ce que vous avez cherché à vous démarquer, à trouver votre activité à vous, ou est-ce que vous avez suivi un peu les pas des gens qui vous entouraient?
Alors tout ça, je l'ai pas du tout réfléchi. J'ai juste, comme je disais, ça a été très instinctif à ce moment-là pour moi. Je pense que j'ai voulu quand même me démarquer. J'ai démarré par aussi au tout début c'était de la peinture, et du coup je sortais un peu, enfin voilà, un petit peu. C'était plus artistique qu'artisanal, quoi, même si pour moi les frontières parfois sont sensibles, quoi, mais enfin, voilà. Mais j'ai pas non plus voulu me démarquer, c'était pas volontaire, enfin, voilà, rien de... pas très clair là.
si, c'était pas aller à l'encontre de ce qui était déjà été fait, c'était quelque chose donc de plus instinctif. En fait, vous êtes allé vers ce qui vous appelait le plus dans cet univers-là.
Oui, c'est ça. C'est les matériaux et les matières avec lesquelles je me sentais à l'aise à ce moment-là, et j'avais besoin de m'exprimer à ce moment-là à travers ce médium, quoi.
Alors, du coup, vous avez abordé il y a quelques minutes des rencontres et les milieux associatifs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Comment ça s'est fait? Quelle association? Et qu'est-ce que vous faisiez avec ces associations ou cette association?
La rencontre s'est faite lors d'une exposition, parce que je faisais des petites expos dans lesquelles j'exposais, voilà, mes travaux. Et à ce moment-là, une association d'art plastique qui était organisatrice de l'exposition m'a proposé chercher une animatrice d'art plastique pour des cours des ateliers enfants. Donc on m'a proposé d'intervenir au début comme ça ponctuellement, et puis bon, après, une fois que j'ai démarré, j'ai pu arrêter. C'est vrai que c'était des échanges très enrichissants pour moi, j'avais pas suivi de parcours académique artistique, donc du coup c'était une façon aussi de découvrir l'enseignement et la transmission à travers des artistes qui étaient aussi enseignants qui enseignaient dans l'association, quoi. Donc on a pu faire des projets sympas ensemble, et c'est un peu, ça a été ma petite formation aussi professionnelle, je dirais.
Avec cette association, donc, vous mettez en place des ateliers et vous donnez des cours d'art plastique pour des enfants, des adolescents, et des ateliers scolaires, c'est ça?
Ouais. Ouais, après, il y a eu deux assos importantes pour moi. La première à Saint-Jean-de-Luz, dans laquelle j'ai pu vraiment découvrir le milieu artistique autour de l'enseignement avec les enfants et les ados. Et après, il y a la deuxième que j'ai créée là avec des amis un peu plus tard, des amis proches aussi, qui étaient très sensibles à l'art aussi. Et voilà, et dans laquelle je travaille encore aujourd'hui. C'est une asso qu'on a créée, on était quatre, donc elle a créé et elle existe encore aujourd'hui. Et c'est là, je la développe aujourd'hui encore. Bon, pas en ce moment parce que c'est pas possible, mais voilà.
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant qu'artiste et puis en tant que femme aussi, en tant qu'affaire, ces ateliers, ce travail avec les enfants ou les adolescents?
Oula, alors bon, ça c'est une vraie pépinière d'idées et de créativité et de vie, quoi. C'est fou. Non, c'est merveilleux. C'est toujours plein de regards différents sur et nouveaux et sensibles sur le monde et sur les sujets proposés. C'est des échanges incroyables. Enfin, moi, je sais que j'ai. Enfin, ça me manque là. Ça fait par exemple là, ben, depuis l'année dernière, j'ai pas pu donc ouvrir, réouvrir les ateliers. C'est vrai que ça me manque beaucoup, quoi. Ouais.
Vous arrivez quand même à créer. J'ai aperçu deux, trois fresques notamment ou quelques tableaux aussi. Malgré la période, la création n'est pas complètement éteinte.
Non, non, non. Mais après, je non. Alors moi, j'ai l'impression vraiment de vivre en huis clos des fois parfois parce que c'est vrai que je peux très bien me sentir complètement perdue et coupée du monde sans qu'il ne se passe rien à l'extérieur. Et des fois, il se passe beaucoup de choses à l'extérieur et je suis complètement connectée. Donc c'est très je sais pas. Parfois, je comprends pas trop, mais donc non, c'est vraiment un rythme intime, quoi, je sais pas, c'est comme ça des fois. Donc là, oui, c'est vrai que ça fait quelques mois là, j'ai besoin de produire, quoi, et de créer, ouais.
Pour revenir aux enfants, vous en avez eu deux, vous, Yona, enfant. Est-ce que votre propre maternité a changé quelque chose à... Est-ce que vous avez constaté une évolution de votre rapport à l'art depuis ou pas du tout?
Alors, oui, ma seconde maternité, la première, j'étais jeune, j'avais 24 ans. Bon, j'ai pas eu conscience de ce qui se passait trop. C'est arrivé plus tard, ouais. Ma deuxième grossesse. Oui, c'est vrai que la maternité, ouais, ça m'a rapproché un peu plus de. Ben, juste de l'humain, quoi. Je sais pas, c'est curieux. Il y avait des petites fractures en moi et c'est vrai que la maternité, ça m'a réconcilié avec beaucoup de choses. Donc artistiquement aussi, forcément, puisque mes inspirations n'étaient plus les mêmes et j'avais envie d'une autre dimension, en fait. Juste de prendre un peu plus de hauteur, d'avoir une vue plus large, d'essayer d'être un peu plus tolérant avec le monde extérieur.
Vous écoutez Les Femmes de chez moi, épisode 35 sur Radio MDM. On va revenir à cette association que vous avez créée avec trois autres amis, une styliste qui est aujourd'hui céramiste, une enseignante à la retraite et une ex-chef d'entreprise. Qu'est-ce qui vous motive à créer cette entreprise, à créer cette association tout ensemble?
Oh, c'était, je pense, une utopie commune, quoi, une envie. On rêvait ça. On avait toutes les quatre besoin d'être dans l'action à ce moment-là et et ça a été vraiment incroyable, quoi, de se retrouver toutes les quatre au même moment et avec les mêmes envies autour d'un projet associatif comme ça, et artistique. Et c'est sur le moment, je sais pas, et je m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui avec le recul, je trouve ça merveilleux, quoi, qu'on ait pu parce que ça s'est fait très vite, hein, même pas quelques mois, même pas les ateliers étaient debout, étaient en place et on accueillait déjà des élèves. Et donc Non, c'était ce rêve commun, quoi, d'avoir aussi des objectifs d'atelier. On voulait vraiment respecter la sensibilité de l'enfant, éveiller la curiosité, la créativité, mais en respectant aussi la sensibilité de l'enfant. C'était donc, on avait mis en place des petits ateliers adaptés aussi aux âges et au niveau. Et bon, c'était riche, quoi. C'était chouette. On apportait chacune des choses différentes.
Et en fait, vous étiez à la base toutes les quatre amies, ou c'est parce que l'idée a germé et que l'une ou l'autre, enfin certaines d'entre vous, ont contacté d'autres personnes qui auraient pu être intéressées?
On s'est rencontrés dans l'association dans laquelle je travaillais au tout début, et ça a été une d'entre elles est arrivée en tant que bénévole, l'autre est arrivée parce qu'elle cherchait à créer des liens, puisqu'elle venait d'arriver dans la région, artistiquement, à créer des liens et à rencontrer des gens. Donc du coup, ça s'est fait un peu tout seul, et on est vite devenus amis, on a travaillé rapidement ensemble, ça s'est fait très naturellement. Et par contre, oui, donc ça s'est fait en même temps. Notre amitié, elle s'est créée au travers aussi de la création de l'association, et voilà. Donc non, on n'a même pas eu à aller chercher à l'extérieur de l'aide, ou puisqu'on était là les quatre, on avait envie d'avancer ensemble, quoi.
Vous m'avez écrit que le monde associatif, c'était un univers qui vous inspirait beaucoup. Qu'est-ce qui vous inspire dans cet univers?
La diversité. Ouais, c'est-à-dire que dans une asso, c'est comme une mini société, un petit monde. On trouve, voilà, c'est vrai quoi. Il n'y a pas à l'entrée, aux portes de l'association, de règles spécifiques. Voilà, on peut accueillir. C'est ça que j'aime. Tous les niveaux, même sociaux, enfin culturels aussi. Ouais.
La mixité, quoi.
Ouais, la mixité, pardon, ouais.
Toujours dans la lignée de cette influence familiale, au-delà de l'artisanat, vous avez monté votre groupe Yodi depuis... Alors, est-ce que c'est bien depuis 2017?
Oui.
Comment il naît, ce groupe? C'est pareil, qu'est-ce qui fait que vous vous lancez dans la chanson? Parce que 2017, c'est jeune, ça fait pas très longtemps qu'il existe. Qu'est-ce qui vous a motivé à monter cette formation?
Déjà, enfin moi, pour le coup, le groupe est jeune, mais moi j'ai démarré tard dans la musique aussi, puisque voilà, j'avais toutes ces activités artistiques en parallèle que j'avais envie de développer. Donc c'est à mon initiative, et c'est vrai que je chantais. Oui, c'est vrai, hein, que c'est vraiment familial, cette histoire, quoi, parce que je chantais déjà avec mon père. Il avait un groupe, donc je chantais dans le groupe pendant, ça faisait déjà 5-6 ans, et j'avais très envie de faire ma musique, quoi, mais avec mes influences musicales, mon ressenti, mais mon histoire, quoi, voilà. Et donc ça s'est fait naturellement aussi. J'ai rencontré donc Jean-Marc, qui était bassiste plutôt rock, quoi. Et ensuite la rencontre avec Julio et l'Amérique du Sud. Déjà, j'avais été touchée par cette musique auparavant. J'aimais beaucoup la nouvelle chanson chilienne, et puis j'avais été touchée par cette histoire, et donc j'écoutais déjà beaucoup de musique sud-américaine. Et Julio venait d'arriver dans la région, on a décidé de former notre groupe, quoi. Donc, avec principalement des créations.
J'allais juste faire une précision. Julio Portia, qui fait du charango comme personne.
Oui.
Qui joue du charango même.
Ouais. Ouais, ouais, qui est charanguiste et très, très virtuose, quoi. C'est vrai que c'est... Donc c'est une belle aventure aussi.
Et la rencontre avec Julio, elle se fait comment?
Par une expo, je crois, à travers une exposition, une amie commune en fait qui organise une expo, parce que lui là, il vient aussi d'une famille enfin artiste aussi, puisque ses frères sont tous artistes, ou musiciens, ou peintres. Donc il a un frère qui est peintre et qui venait exposer chez une amie commune. Et c'est là qu'on s'est rencontrés.
Qu'est-ce que ça vous autorise du coup à vous, Yodi ? Qu'est-ce que ça vous apporte, ce groupe ?
Moi, c'est tout le monde de la musique. Pour moi, la musique, elle a une place aussi. Ça a été vraiment une amie dans ma construction de vie. J'ai toujours, ça m'a vraiment embarqué la musique tout le temps. Ça m'a accompagnée. Et j'écoutais un petit peu de tout. Et aujourd'hui, de pouvoir juste avoir la chance de monter sur scène et de pouvoir juste m'exprimer musicalement, c'est en plus en groupe, c'est-à-dire que d'être réunis à plusieurs sur scène et d'avoir cette même énergie ou cette même envie d'exprimer des choses au même moment, c'est quand même assez incroyable à vivre. Donc c'est fort, c'est des aventures qui sont fortes.
C'est toi qui compose?
Oui. En général, j'arrive avec un petit texte et une mélodie et quelques accords de guitare. Et ensuite, tout le travail se fait. Les arrangements, c'est par contre, on est tous les trois. Maintenant, on est quatre. Il y a aussi un autre musicien qui a rejoint le groupe. C'est Bruno, qui est percussionniste. Et donc ensuite les arrangements se font petit à petit à quatre, quoi. C'est comme et l'histoire se monte, enfin l'histoire musicale se monte, au cours des répétitions et jusqu'à ce qu'on décide que le morceau est en place et peut voyager. Voilà.
Est-ce que, au même titre que l'artisanat, c'était une évidence qu'un jour il faudrait que vous ayez votre moyen d'expression via la musique ?
Oui, je crois qu'au fond de moi, oui, c'est comme une évidence, quoi. La musique, elle est là depuis que je suis aussi toute petite. J'ai grandi avec. Ouais. C'est quelque chose qui pour moi fait partie de ma vie, fera partie de ma vie. Après, je sais pas de quelle façon, ça peut être aussi juste, sans même avoir peut-être de groupe ni d'avoir de représentation, mais c'est, ici la guitare elle est tout le temps là, enfin, je sais que si ça chante à la maison même, ça chante tout le temps, quoi, enfin, très souvent.
Oui. Si vous êtes une ou un fidèle auditeuriste de l'émission, vous savez qu'il est maintenant temps de savoir ce que les Landes, le Pays Basque et le Sud-Ouest en général évoquent à notre invitée, Johanna Diaz.
Une terre fertile, quoi, la fertilité, la vie, quoi. C'est peut-être... la nature, elle est très présente, donc elle est très inspirante aussi. C'est vrai que juste à travers quelques promenades... soit au pied des montagnes, soit même dans les Landes, les paysages et les décors sont très différents. C'est vrai que c'est marrant, quoi, du Pays Basque et des Landes, on passe d'un monde à l'autre, mais même moi j'ai pu aller jusqu'à la frontière avec la Chalosse et c'est très beau aussi. Donc, enfin, c'est vraiment la nature ici qui prend le dessus, moi je trouve, sur tout le reste.
La ville de Saint-Jean-de-Luz où vous êtes née et dans laquelle vous avez grandi, vous l'avez aussi arpentée, puisqu'a priori vous avez pas mal bougé dans cette zone-là avec vos parents jusqu'à vos 12 ans.
Ouais, ils aimaient bien bouger. J'ai vu plein de petits villages voisins. Donc après, Saint-Jean-de-Luz, oui, c'est une ville de pêcheurs, oui, elle est dans mon cœur aussi, donc j'y suis née, c'est vrai. Et après, on a pas mal bougé, mais c'était ici, hein, c'était vraiment tout près. C'est à quelques kilomètres, des petits villages qui sont à quelques kilomètres les uns des autres, quoi. Mais malgré tout, je suis passée d'une école à une autre, à une autre, à une autre, juste à côté. J'ai l'impression d'avoir beaucoup voyagé, mais sur un tout petit périmètre. C'est assez drôle. Bon, bref. Bon.
Non, mais c'est rigolo, surtout quand on est enfant, changer d'école, c'est pas toujours forcément évident, ou en tout cas dans la socialisation, ça peut aider ou un peu empêcher.
Ouais, et puis sincèrement, que de passer d'un petit village à un autre, même à 300 bornes ou juste à 5 kilomètres, c'est pareil en fait. Quand on est enfant, faut tout, ouais, voilà, faut tout reprendre à zéro. Et donc c'est à chaque fois, c'était compliqué. J'étais quand même assez timide et réservée. C'était pas simple.
Johanna, ça va être l'heure de faire notre petite pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous annoncer le titre que vous avez choisi, éventuellement nous expliquer pourquoi?
Alors, j'ai choisi The Passenger d'Iggy Pop. Pourquoi? Bon, mais déjà, quand vous m'avez demandé de choisir un morceau, c'est celui que j'écoutais en boucle. Donc, je me suis dit, ça doit être un signe. Et donc, parce que je suis assez... j'aime bien, quand j'aime un morceau, j'aime bien l'écouter jusqu'à épuisement, en fait. C'est intense. C'est, du coup, tout le monde dit, on a assez ici à la maison. Et bon, c'est pas grave. Donc, et j'aime bien ce morceau, l'idée de passage, d'être de passage, juste de traverser cette vie un peu nomade, comme ça, de traverser les villes et les terres, comme ça... En observant ce qui se passe, j'aime bien ça. Je trouve que ça me fait du bien à chaque fois. Ça, voilà. Ça me fait voyager, je crois, un peu.
MDM.
the passenger. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window side. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Oh, singing la la la.
Vous écoutez Les Femmes de chez moi, épisode 35, Johanna Diaz sur MDM. Johanna Diaz, dans la deuxième partie de cette émission, on s'intéresse à trois souvenirs qui ont fait de vous celle que vous êtes aujourd'hui. Et le premier concerne votre grand-père.
Ouais, c'est ça. C'est mon grand-père donc, qui était ébéniste et qui passait des heures et des heures dans son grand garage, parce que c'était... Pour moi, c'était un grand garage, son grand atelier. Voilà, à travailler. J'aimais beaucoup traîner en bas avec lui. Et voilà, je le regardais faire ses décors sur le bois. Et en même temps, il avait toujours plein de petits outils ou de petits objets à me prêter pour que je puisse passer le temps aussi avec lui comme ça. J'ai de bons souvenirs de ces moments-là où je voyais pas le temps passer.
C'est-à-dire que ça, quand on est enfant, ne pas voir le temps passer, c'est quand même sacrément cool. Et c'est peut-être de là aussi qu'est venu votre intérêt certain pour l'artisanat.
Oui, c'est sûr. Moi, ça m'a de suite émerveillée. Ça, je me souviens, je regardais ces petits papiers, il calquait ses motifs sur du papier calque. Donc, ensuite, il le posait sur le pied en bois du meuble et puis... Il redessinait, ensuite il prenait les ciseaux à bois. Je vois bien travailler. En plus, il prenait vraiment le temps. Il travaillait à l'ancienne, donc il prenait vraiment le temps de poser chaque étape. Et je me souviens de, oui, ça me touche encore. Moi, j'aime beaucoup travailler le bois, même si c'est juste pour mon plaisir. J'aime bien travailler le bois aujourd'hui.
Oui, donc vous avez été immergé complètement dans cet univers-là. Et en plus, vous étiez fille unique. Donc j'imagine que avoir toutes ces activités à côté et à portée de main, c'était vraiment quelque chose d'agréable et réconfortant.
Ouais. Et puis, c'est ça. Enfin, je me souviens pas m'ennuyer, moi, même enfant. Voilà, je certainement oui, c'est bon aussi l'ennui. J'ai dû m'ennuyer, mais j'avais toujours une petite bricole ou je sais pas. J'avais ça à portée de main, donc c'est vrai que c'était facile, quoi, de me perdre dans ce monde-là, comme.
Le deuxième souvenir que vous avez choisi d'évoquer va nous amener en Espagne.
C'est ça, en Navarre, dans un petit village qui s'appelle Urue, dans lequel je passais aussi souvent tout l'été. Où on passe, enfin, c'est assez curieux parce que juste à quelques kilomètres d'ici, à même pas 2 heures du Pays Basque, on se retrouve sur une terre aride et presque. Avec même des couleurs et des odeurs méditerranéennes un peu. Et c'est une terre. Moi, j'y passais tous mes étés, parfois 2 mois, 3 mois. Et c'est vrai que ce petit village, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien, il y avait juste la pierre et la chaleur de le poids du soleil en été, parce que c'est des petits villages, voilà, qui sont perdus un peu en altitude, mais c'est un climat assez chaud et sec. Et C'était de très beaux souvenirs parce que je pense qu'on se retrouvait en famille, le temps s'arrêtait, le monde s'arrêtait un peu là-bas. C'était de bons moments.
C'est presque paradoxal par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, Johanna, le temps qui s'arrête, là vous étiez un peu en manque d'activité et finalement c'est ce qui vous plaisait à cette époque dans ce village précis.
Ouais, par contre, j'aime beaucoup la contemplation, moi. C'est vrai. Je vais avoir peut-être une heure d'activité pour 10 heures de contemplation, à peu près. C'est un peu dramatique, mais c'est ça, en fait. Donc, j'aime beaucoup, moi, quand je sens que tout ralentit, j'avoue, hein, moi, j'aime la beauté, quoi. C'est vrai. Parfois ça m'agace un peu, mais j'aime la beauté, quoi. J'aime tout ce qui est, j'aime ce qui est beau, mais ça peut être beau et extraordinaire. J'aime ce qui est beau et extraordinaire, mais parfois ça peut être des choses très qui peuvent nous paraître insignifiantes, quoi. Mais j'aime faire focus dessus, quoi, et le mettre en valeur. Et voilà, j'aime la beauté, ça peut être d'un paysage ou d'une petite herbe qui pousse ou d'un regard ou
juste le beau dans cet instant.
Ouais, c'est ça.
Je vois. Alors on a également évoqué la musique ensemble en première partie et c'est elle qui revient pour le troisième souvenir.
Oui. C'est une de mes premières impressions fortes musicales comme ça, ou sensations fortes que j'ai eues lors d'un concert où c'est vrai que j'étais ado et je sais plus du tout comment je suis arrivée à ce concert de jazz parce que j'écoutais pas du tout ça à ce moment-là mais je me souviens d'avoir été complètement emportée pour la musique, ça c'est vrai. J'avais même des copines qui me disaient c'est nul, on s'en va. Et moi, je suis là, non, mais arrête, c'est vachement bien, en fait. Et pour moi-même, j'étais surprise et perplexe parce que je me disais, bon, mais j'avais été complètement emportée par cette musique. Et je me souviens, je me suis dit, waouh, je crois que c'est une des fois où je me suis dit, c'est quand même génial d'être sur scène et de pouvoir se sentir libre comme ça. Parce que bon, dans le jazz, c'est un peu ça. C'est vrai que l'idée, c'est d'être libre musicalement aussi. Mais tout en gardant son chemin, donc c'est assez incroyable, ouais. Donc voilà, c'était cette émotion forte là du souvenir.
Tellement forte que vous ne saviez même plus vraiment où c'était ce concert.
Non, je sais pas. Je crois que c'était Paris ou Madrid, je sais pas. Non.
Dans les informations transmises par Johanna pour préparer l'émission, alors qu'elle n'avait pas encore évoqué la place de la musique dans sa vie, elle a conclu son texte de présentation par cette phrase qui m'a intriguée. « Démarrer la chanson en montant mon groupe fut aussi une sacrée étape pour moi. »
Parce que la chanson, c'est quand même quelque chose, c'est pas évident non plus pour moi d'être comme ça sur scène, mis en lumière ou d'exprimer des choses. C'est vraiment, je pense que c'est pas non plus dans ma nature d'être comme ça. Moi, j'aime bien le côté atelier et voilà, un peu enfermé dans un petit coin ou d'être dans un petit coin de nature oublié et pouvoir, la peinture dans le rythme de créativité et même dans la façon d'exposer son travail. Je me sens mieux dans la peinture ou. Et que bon, c'est voilà, c'est juste et parfois c'est vrai que la musique c'était c'est pour ça que j'ai démarré tardivement aussi, je pense, parce que il a fallu que je réunisse du courage, je me dise bon, mais j'avais tellement, mais voilà, l'envie elle était plus forte, j'avais envie et besoin, quoi, de c'est comme si je rendais hommage un peu. C'est vrai que ça m'apporte tellement, je trouve ça tellement puissant, la musique, que je me dis, même si c'est à mon niveau, j'ai envie d'en faire partie, quoi. Je me dis, c'est trop chouette, quoi, d'essayer.
Si je peux me permettre, le niveau est quand même sacrément élevé avec Yodi et ce que vous proposez.
Oui, bon, c'est sympa. Ouais, bon, après, mais c'est quand même une, pour moi, c'est pas rien non plus d'arriver, enfin, ça m'a toujours émerveillée, moi, de voir des femmes monter sur scène. J'ai été toujours très émerveillée par les grandes voix de femmes et monter sur scène, chanter ces chansons. Parfois, on se sent tout petit en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là, finalement? Et voilà, donc, c'était quand même pas rien, non, pour moi, de même monter en groupe et puis, voilà, mener tout ça, parce qu'après, au final, c'est comme, voilà, faut avancer ensemble et c'est pas toujours simple, donc c'est des petits combats de tous les jours et non, mais c'est, ça fait partie du groupe, quoi, de l'aventure, ouais.
Et le courage que vous évoquiez à l'instant pour finalement franchir le cap, vous diriez qu'il vient avec l'âge ou c'est un moment précis, un déclic? Qu'est-ce qui a fait que le courage est arrivé?
Non, c'est plus. Je pense que c'est plus profond que ça. Pour moi, c'était plus. C'est comme si au fond de moi, je sentais. Voilà, c'était. Bon, tout à l'heure, on parlait d'évidence. C'est vraiment ça. Je sentais qu'il fallait que ça fleurisse, quoi, qu'il fallait que ça sorte, quoi, fallait que, parce que je tournais en rond avec des chansons déjà que j'écrivais, que j'avais en tête, j'avais envie de créer, l'envie était là, donc je me disais c'est pas possible, je vais pas rester avec tout ça dans ma tête, il faut que ça sorte un moment, même pour moi c'est juste pas gérable, quoi, de garder tout ça et de pas en faire quelque chose, quoi.
Donc dans cette émission, on va de petite tradition en petite tradition. Il y a le rituel sonore du début, la question de fin de première partie, et puis la dernière question qui vient clôturer l'émission. J'aimerais, Johanna Diaz, que vous m'expliquiez comment vous regardez le parcours, comment vous regardez le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Ouais, je sais, elle est pas facile.
Non, elle est pas facile.
Mais c'est ma préférée.
Ah, oui, ça, oui. Non, oui, elle. Comment je vois mon parcours? J'ai l'impression. Alors, ça, c'est pareil, ça vraiment, ça dépend. Bon, là, je vais répondre avec mon humeur du jour, mais. Ça va dépendre. Il y a des fois où j'ai vraiment l'impression d'avancer à petits pas et de même parfois de piétiner où je j'y vois pas très clair. Je suis quelqu'un, je pense, qui doute beaucoup aussi. Donc du coup, par moments, c'est un peu fragile. Mon parcours, il reste pour moi fragile. Je le vois de manière. Et d'autres fois où c'est tout à fait. C'est l'opposé, quoi. Je trouve que je finalement, tout ce que j'ai réussi à mettre en place, ça a été avec des gens que j'avais dans mon cœur ou qui étaient là auprès de moi, avec qui vraiment j'ai pu partager des choses sincères et parfois j'en suis fière et parfois moins. c'est difficile comme question quand même. Je sais pas.
Mais je crois que t'as plutôt bien répondu.
Oui.
Non?
Je crois. En tout cas, si je suis le plus sincère possible là, je sais. C'est ça. Donc je. C'est vraiment ce que je vis, quoi. Voilà, par moment.
Mais du coup, t'as pas répondu avec ton humeur du jour.
Alors, ah oui, pardon. Alors, ça, c'est dans. Ouais, c'est vrai. Alors, mon humeur du jour. Non, là, c'est plutôt positif quand même aujourd'hui. Là. Ouais, je suis bien. Donc, non, c'est plutôt positif. Je trouve que, au final. En tout cas, j'ai le sentiment d'être à ma place, quoi. Dans ce que je fais, même professionnellement, dans ma façon d'avancer aussi. Et. Même si c'est difficile des fois parce que je choisis, enfin moi toute seule, hein, je choisis pas les chemins les plus simples aussi parce que je suis un peu têtue aussi, mais du coup non, ça va au final, voilà, aujourd'hui ça va.
Eh bien, vous m'envoyez ravie. Merci beaucoup, Johanna Diaz.
Ok, merci, Margot.
Mille merci à Johanna Diaz pour cet échange. Merci à PAF au montage. Et merci à vous qui écoutez Les Femmes de chez moi.
Moi, je ne pense pas du tout que ce soit une guerre entre les hommes et les femmes.
We want to end gender inequality.
J'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant.
And to do this.
Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu.
We need everyone involved.
À bientôt chez Les Femmes de chez moi.